Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode spécial de Tech Café, un épisode histoire. Je suis Guillaume Vendée et avant de vous laisser à votre épisode, je voulais vous donner un petit peu quelques éléments de contexte parce qu'il s'agit en réalité d'un très gros dossier qui a été préparé par Guillaume Poggiaspala de 2 heures et donc je ne voulais pas vous le diffuser en une fois comme ça pour vous assommer d'un coup. Donc j'ai découpé l'épisode en 2 parties. La première partie concerne la Suède et des parties liées à la Russie. Donc vous allez voir que dans l'histoire de la tech de ces dernières dizaines d'années et de ce dernier siècle, il y a pas mal de choses hyper intéressantes qui se sont passées dans le nord de l'Europe et dans l'est de l'Europe. Et puis la deuxième partie du dossier s'intéresse un peu aux mêmes époques, mais en France. Et donc ça, ce sera l'objet de l'épisode, de la seconde partie de cet épisode de dossier. Voilà, je voulais juste vous donner ces éléments de contexte et je vous laisse tout de suite à votre épisode. Bonne écoute. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre supplément de Tech Café, l'épisode qui vous permet d'aller un petit peu plus loin et qui nous permet de creuser des sujets ensemble. Vous l'attendiez ou pas, en tout cas voici un troisième volet de Steampunk Café. Ceux qui sont parmi les plus fidèles auditeurs auront déjà entendu le paradigme de l'informatique raconté dans l'histoire par Guillaume Poggiaspala, où on avait été jusqu'à explorer des machines, d'où le titre d'ailleurs, hein, qui fonctionnaient même à la vapeur les premiers calculateurs. Tout cela nous avait emmené, si je ne dis pas de bêtises, dans le second épisode, explorer ce qui s'était passé en Angleterre, jusqu'à l'Amstrad, quelque part. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je suis ravi de retrouver votre expert et chroniqueur de Tech Café, qui a préparé donc un troisième épisode autour de l'histoire de la tech, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Écoute-moi, ça va très bien. Voilà, content de revenir un petit peu pour cet épisode historique. On va revenir encore une fois dans les années 50. Et oui, c'est l'époque épique.
C'est pas Nota Bene, la chaîne YouTube sur l'histoire, mais ça s'en rapproche un peu par certains aspects. Tous les sujets qui sont abordés par Guillaume, y compris dans les épisodes suppléments, sont sourcés et les liens sont dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller dans les notes de l'épisode sur votre app de podcast ou, si vous ne voulez pas de contraintes de mise en page un peu foireuses, d'aller sur techcafé.fr dans l'article qui accompagne la parution de cet épisode, comme à chaque fois. C'est sur techcafé.fr. Et puis, juste avant qu'on se plonge dans la frise historique que tu nous as préparée, je rappelle quelques incontournables, mais je vais aller évidemment très vite. Vous savez à quel point c'est précieux pour nous que vous puissiez montrer à quel point vous appréciez le travail de Guillaume et le travail qu'on mène pour vous apporter Tech Café semaine après semaine dans votre app de podcast. Et pour cela, il y a plusieurs manières de le faire. D'une part, de participer aux échanges sur techcafé.fr/discord. Il y a un serveur Discord tout à fait agréable et dans un petit communauté. On a l'impression que c'est un salon un peu familial où les gens discutent de tech, mais pas que. Il y a aussi la possibilité de laisser des avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très important pour nous parce que quand les gens découvrent Tech Café et qu'ils écoutent un premier épisode, ils le font en sachant qu'il y a toute une communauté derrière. Apprécie les contenus et ça, évidemment, c'est très important que vous puissiez vous aussi contribuer pour qu'on ait le maximum d'avis à 5 étoiles qui soient qualifiés. Et puis, si le cœur vous en dit, si jamais vraiment vous voulez soutenir financièrement Tech Café, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos pour soutenir le podcast financièrement avec les montants qui vous paraissent les plus justes, sur la durée qui vous paraît le plus appropriée. Et évidemment, vous pouvez en plus plafonner ces participations. En échange, vous avez le flux du podcast qui vous est dédié personnellement sans la pub. Mais je laisse de côté toutes ces considérations sur lesquelles je reviendrai dans l'introduction de l'épisode hebdo de la semaine prochaine plus en détail. Parce que là, on a du travail. On doit te suivre, Guillaume, dans la machine à voyager dans le temps. Et on remonte dans le temps, mais on reste pas trop loin quand même. On reste en Europe, c'est ça, Guillaume ?
Ben oui, parce que dans l'épisode informatique, voilà, historique un petit peu d'avant, on avait parlé donc du rôle de pionnier de l'Angleterre. Dans les débuts de l'informatique, on avait parlé du Colossus, de Turing, bien entendu, de son ordinateur physique, hein, le ACE, parce qu'il n'a pas fait que des machines abstraites, hein, comme la machine de Turing. Et puis on est allé aussi jusqu'au premier ordinateur commercial, le Leo de Lyons. On est resté volontairement centré outre-Manche, parce qu'on avait vu qu'il s'y passait énormément de choses, bien sûr, et puis ça n'est passé aussi en Europe continentale. Alors, c'est ce qu'on va un petit peu explorer dans cet épisode. Hein. Donc, on va aller naturellement vers les tentatives les plus précoces, hein, en Europe, hors Angleterre, donc. Bon, ça va nous mener en Suède et en Ukraine, voilà, et en Russie aussi, évidemment. Ça sera une bonne occasion de parler un petit peu de l'informatique en URSS, de manière plus générale, même dans le bloc de l'Est. Et ensuite, enfin, on va s'intéresser à la France, monsieur. La France qui a une histoire complexe, voire compliquée, avec les ordinateurs
le pays
dans
du
les
Minitel.
Années 50-60. Comment ?
Le pays du Minitel, même si c'est plus récent, le Minitel. Ouais. Mais...
Il y a un côté comme ça, il y a un petit côté comme ça. S'il y a un petit côté, parfois, on essaie d'être précurseur, on n'y arrive pas trop, et puis bon, finalement... Bon, c'est très compliqué, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses en France. C'est vrai qu'il n'y a pas eu... à l'époque, si tu veux, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a démarré un peu tard, mais il y a eu un véritable secteur industriel, informatique et électronique en France, hein, clairement, dans les années 50-60. On a produit ordinateurs et composants 100% français. On a tenté vraiment de faire en sorte de rester dans la course. Et puis bon, ça a été compliqué. Mais bon, on verra ça en détail plus tard. Voilà, on va remonter un petit peu à l'origine des ordinateurs en Europe, donc continentale. Et pour ça, on va partir en Suède. Mmh. Parce que bon, on avait déjà un petit peu parlé de l'informatique en Europe continentale quand même. Parce que dans les années 40 à 50, on avait déjà parlé de la machine de Konrad Zuse, qui était donc les Z3. Enfin, on a parlé en fait de la série Z, et en particulier des Z3 et Z4, hein, donc les Z4 allemands. On avait parlé dans le premier épisode, je crois même. Mm-hmm. Parce que c'était vraiment des ordinateurs électromécaniques très 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 précoces. Hein. C'est probablement les premiers, hein, parmi les premiers ordinateurs tout court, et en tout cas en Europe continentale, c'était les premiers. Et le deuxième pays européen à avoir développé un ordinateur, finalement, c'est la Suède avec son BARK. Leur BARK, B-A-R-K. Donc c'est pas un ordinateur en bois. Oui, parce que BARK, ça veut dire écorce aussi en anglais. Non, ça veut dire Binar Automatisk Relay Calculator. Donc en gros, ça veut dire que c'est un calculateur automatique binaire à relais. Du coup, voilà, c'est bon, vous savez ce que c'est, j'ai plus trop de boulot à faire. Hein, tout est dans le titre, c'est génial. C'est cool. Donc ce truc a été installé au Royal Institute of Technology à Stockholm. Donc la décision de le construire a été prise fin 48 et il a été fini en 1950 tout pile. Donc c'est une machine électromécanique qui a été construite en grande partie avec des relais de téléphone. C'était parce qu'il y en avait plein évidemment à l'époque. C'était assez facile de s'en procurer, donc c'est vrai que souvent on repose là-dessus, sur du matos téléphonique en fait. Hein. Et donc elle était binaire, elle travaillait sur 32 bits, en virgule flottante. Attention, elle faisait une addition en 150 millisecondes. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on avait... c'est la vache, c'est vrai que c'était bien pour l'époque, hein, mais enfin ça veut dire qu'on faisait moins de 7 opérations par seconde.
Oui.
Et c'était des opérations simples, parce que pour les multiplications c'était pire, c'était 4 par seconde. 4 multiplications par seconde, c'est mieux qu'à la main, mais bon, pas plus que ça, quoi. Donc son premier travail, ça a été de faire une table de cosinus, d'ailleurs. Donc elle avait 50 registres qui contenaient les variables sur 32 bits, et il y avait 100 constantes aussi. Donc c'était déjà une machine qui était assez complexe, hein, finalement, FAT, hein, au niveau électromécanique. Hein, l'unité qui faisait des additions contenait 232 relais, et le multiplicateur, presque un millier de relais. Et il y en a 5000 dans la machine entière. Il y a eu une extension de mémoire, d'ailleurs, qui a été rajoutée ensuite et qui portera ce chiffre à 8000 relais. Donc, t'imagines la taille et le bruit, la consommation de ce truc. Alors, c'est une machine qui se programme par branchement physique, donc elle n'a pas beaucoup d'instructions, hein, c'est vraiment une sorte de calculateur automatique. Mais ça suffit pour faire des calculs répétitifs, approximer des solutions d'équations, etc. L'armée l'aurait utilisé pour des trajectoires d'artillerie et de la cryptanalyse. Donc la Suède, en fait, talonne l'Angleterre, finalement, et les États-Unis. Hein. Et elle va beaucoup... c'est une machine, donc, le BARK, qui va pas mal servir jusqu'à son démantèlement en 1957. On va la démonter pour des raisons de place, hein, tout simplement. C'est un truc qui est tellement énorme. En gros, il a besoin de la salle pour un nouveau truc. Et donc, ça, évidemment, on a fini par la démonter. Donc, c'est un monstre. Ça prend une pièce entière. Il y a des murs de relais. Il y a une énorme console de contrôle qui est garnie de gros boutons, comme ça, avec des trucs à brancher. BARK, c'est un projet qui est né principalement par un gars qui s'appelle Connie Palm. Oh, il est du Royal Institute of Technology, hein, c'est-à-dire le KTH. Malgré ce qu'on peut laisser penser le prénom, c'est un homme. Il s'appelle Connie, mais c'est un homme. Hein, Donc c'est un statisticien. Il a travaillé pour Ericsson, d'ailleurs, dans les années 40. Hein, parce qu'Ericsson, c'est très vieux.
Ah oui, c'est vrai.
Ericsson
c'est une boîte suédoise, du coup.
C'est une boîte suédoise. Qui a été fondé en 1876 par Lars Magnus Ericsson, tout simplement. Et ils font de la téléphonie. Ericsson, ils font de la téléphonie depuis très 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 longtemps.
C'est marrant cette proximité d'ailleurs dans l'histoire de la téléphonie et comme ça du calcul. Ça fait deux fois que tu évoques quelque part ce lien-là. C'est rigolo parce qu'on pourrait faire des parallèles entre le fait qu'aujourd'hui les smartphones et leur structure, la structure des puces ARM, transpirent sur l'informatique personnelle. Bon, je dérive un petit peu, mais c'est rigolo de voir que la téléphonie inspire comme ça le calcul de manière générale.
En gros, tu sais, les relais téléphones utilisaient beaucoup d'appareils électromécaniques et qui ont, voilà. Donc en fait, on en produisait beaucoup pour cette industrie-là. Et le plus simple, oui, quand tu voulais faire des machines, c'était de puiser en fait dans ce stock-là et dans le stock de câbles aussi, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette proximité qu'on retrouve effectivement pas du tout qu'en Suède. Hein. Et donc, Connie Palme, ben lui, voilà, il a une... Bon, lui, en fait, il est statisticien, mais il est aussi très doué en ingénierie électrique, d'ailleurs. Et il est prof de télécommunication aussi. Donc, les relais, les câbles, tout ça, il connaît. Et apparemment, c'était vraiment un élève très brillant et complètement ingérable. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faisait ce qu'il voulait, c'était un enfer. Donc, son maître de thèse l'a qualifié de bohémien. T'imagines, à l'époque, je veux dire, il avait traité de bohémien, quoi. Attention. Et donc, il avait dû lui faire un chantage au salaire, d'ailleurs, hein, pour lui faire suivre ses cours. Le mec, il venait pas, il disait, bon, si tu viens pas, t'es pas payé. Voilà. Donc, t'imagines le gars. Et bon, de manière informelle, d'ailleurs, son Bark, là, son ordinateur Bark, parfois on l'appelle le cognac. Le cognac pour Connie et Eniac. Et voilà, vous l'avez. Et c'est pas une blague, hein, je veux dire, c'est véridique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un truc véridique. Ça, parfois, de manière informelle, on appelait ça le cognac.
Rien à voir avec la ville de Charente, du coup.
Eh ben non.
Ni avec l'alcool, évidemment. Non, mais parce que moi, je pense en premier à la ville, parce que je viens de Charente, mais il faut penser en premier à l'alcool, je pense.
Et ben non, c'est effectivement le cognac. Voilà, bon, enfin, c'est O2NIAC, quoi. Mmh. Et bon, autre personnalité notable autour de Bark, c'est Elsa Karin Bostad-Nilsson.
Une femme, cette fois-ci.
Une femme, donc, absolument, qui sera une de ses principales spécialistes, ainsi d'ailleurs que de son successeur. Le successeur du Bark, ça s'appellera le BESC. Et donc, Elsa, c'était une véritable reine des neiges aussi. Oui, j'ai pas pu résister. La Suède, Elsa, tout ça, pardon. Et elle sera pionnière de la programmation en Suède, mais aussi dans le monde, hein, puisque voilà, quand t'arrives tôt à ce point. Et ce qui est marrant, c'est que son histoire a les caractéristiques de cette époque. En fait, elle fait penser un petit peu au film Les Figures de l'Ombre. Je sais pas si t'as vu.
Non, j'ai pas vu du tout.
Bah, Les Figures de l'Ombre, c'est un film qui retrace l'histoire de trois calculatrices, entre guillemets, afro-américaines, donc des calculatrices humaines, hein, utilisaient des calculateurs humains à cette époque-là, hein, donc avant les ordinateurs, tout simplement, les calculs pratiques, hein, les calculs numériques, hein, qui étaient faits par des bataillons de calculateurs humains pour, justement, pour les missions spatiales, par exemple, hein, et tu devais avoir des vraies valeurs, quoi, tu vois, c'était bien d'avoir les équations, okay. Mais bon, à un moment donné, il faut avoir les vraies valeurs de tel truc, hein, de poussée, de trajectoire, de tout ce que tu veux. Donc il fallait des calculateurs humains. Et en général, c'était des gens qui calculaient donc très bien et très vite. Donc c'était des bons mathématiciens, souvent. Et c'était le cas pour Katherine Johnson, par exemple, une des protagonistes du film. Et leur rôle, finalement, était crucial. Tu vois, c'était... il faut avoir des solutions justes et précises pour les équations, pour pouvoir mener à bien une mission. Et parfois, il fallait avoir recours à beaucoup d'intelligence pour justement résoudre ces équations dans les temps et de manière gérable, quoi.
Le stress.
Exactement,
le stress.
Exactement. Et qu'il fallait parfois avoir beaucoup d'imagination pour voir comment attaquer le problème, pour le simplifier, pour le résoudre de manière assez élégante, pour pouvoir avoir des valeurs numériques exploitables comme ça, quoi, dans les temps. Et sans ce travail, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de fusée qui décolle si tu n'as pas vraiment les valeurs qu'il faut pour là, les matériaux, les poussées, etc. etc. Donc il y avait beaucoup de calculatrices, entre guillemets, hein, des femmes. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes, pas uniquement, mais il y avait beaucoup de femmes. Qui utilisaient des outils de l'époque. Alors, elles utilisaient quand même des trucs, hein. Elles utilisaient des calculatrices mécaniques, des tables de valeurs, évidemment, et parfois même des machines de calcul analogiques, des choses dont on a un petit peu parlé dans les épisodes précédents. Mmh. Et en 48, bah, Elsa Karin, en Suède, c'est pareil, en fait, hein. C'est son lot aussi. Elle intègre l'Institut de recherche de l'armée, donc ça s'appelle le FOA, bon, c'est du suédois, me demande pas ce que ça veut dire. Et elle y fait des calculs d'aérodynamique, avec l'aide de calculateurs mécaniques, hein, typiquement, donc c'est-à-dire des grosses machines lourdes en métal, et avec une manivelle que tu tournes pour faire les calculs.
Vraiment steampunk café à fond.
Ah ben ça ressemble, en gros c'est une sorte de super pascaline, hein, à l'époque on utilisait des trucs qui étaient des super pascalines, quoi. Donc la Suède en produisait d'ailleurs, c'était les machines Facit, AB, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc dès le début, dans les années, voilà, dans les années 50, hein, les calculateurs analogiques venaient des US déjà et accéléraient pas mal le travail. Les calculateurs analogiques, et donc souvent, ils résolvent les équations en gros, parce que le système qui est à l'intérieur du calculateur analogique, en fait, il modélise une équation générale et puis après, tu débrouilles. Bon, il fallait donc s'adapter à ces nouveaux outils, hein, qui étaient des calculateurs analogiques. Et ces calculateurs analogiques, en fait, ils rendaient un petit peu obsolète parfois même le travail de certains calculateurs, puisqu'il y a beaucoup de choses qui, du coup, devenaient quasiment automatiques. Et déjà, Elsa, elle doit prendre des cours en programmation. En fait, déjà, elle se dit, aïe, 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 ça commence à, déjà, on commence à, tu vois, à l'époque déjà, hein, on commence à être remplacé par des nouvelles machines, je risque de devenir obsolète. Et donc, elle prend des cours de programmation et elle devient opératrice sur le BARC. Et elle sera d'ailleurs la première à faire tourner du code sur le BESC aussi, donc son successeur, qui lui sera électronique. Donc BESC BESC, c'est binary, comme c'est du suédois, je sais pas. Donc binary electronic sequence calculator, hein, voilà. C'est donc cette machine qui troque les relais pour des tubes à vide. Alors, comme ça se faisait à l'époque, hein, donc c'est tout à fait typique, hein. Donc le BESC a été complété en 1953. Donc le BESC, il a été utilisé pour le programme nucléaire suédois, quand même. Et Elsa y a participé. Donc elle a même épousé un des scientifiques du projet. Est-ce que c'est pas mignon, ça?
Oh, c'est une belle histoire d'amour qui est née grâce à la tech.
Qui est née grâce à la tech et autour d'une bombe nucléaire. Oh là là. C'est trop mignon. D'ailleurs, elle est morte récemment, hein. Elsa, elle est morte en 2020. Elle est morte à 95 ans. Elle a une vie remarquable, hein, Elsa Karine. Elle est devenue directrice de calcul scientifique au FOA, puis du département de mathématiques. Elle a aussi été une activiste pour le droit des femmes, d'ailleurs, dans toute cette histoire. Il y a ce sujet, d'ailleurs. Hein. Encore en 75, hein, le FOA payait mal ses employés femmes, d'où son implication. Et les femmes calculatrices ont d'ailleurs été globalement remplacées déjà par des ingénieurs, souvent des hommes, lors de la transition vers les appareils analogiques. Et après, il y a eu les ordinateurs. Donc, il a fallu se recycler. Hein, Alors, elle a réussi à se recycler dans la programmation. Et d'ailleurs, on voit aussi cette transition dans le film Les Figures de l'Ombre. Donc, quand la NASA achète son premier IBM 7090, les calculatrices, elles vont être congédiées, elles vont être dans leur majorité, elles vont être tout simplement licenciées, quoi. Et sauf celles qui, comme Dorothy Vaughan, par exemple, qui est une autre protagoniste du film, qui va se former au nouveau truc, elle va se former au Fortran. Et c'est comme ça qu'elles pourront, continuer à travailler là-bas. Donc, dans le film de Les Figures de l'Ombre, il y a aussi une dimension raciale, hein, qui est bien marquée dans le film, évidemment. Ce sont toutes des Afro-Américaines. Les aptitudes, par exemple, qui étaient hors du commun, hein, de Katherine Johnson, seront lourdement bridées par la ségrégation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est née elle est née en 1918. Et donc, à cette époque, quand tu es super fort en mathématiques, il vaut mieux être blanc que black, si tu veux vraiment exploiter ça.
Il vaut mieux être
quoi.
Blanc, quel que soit le sujet, de toute façon.
Oui, non, mais c'est vrai.
Mais oui, tu as raison, ça s'illustre aussi comme ça, quoi.
Donc, c'est... bon. Enfin bon, le BESC, ça a été un ordinateur qui a eu beaucoup de succès. La Suède a eu son secteur informatique, donc. Et le BESC a été brièvement l'ordinateur le plus rapide du monde, d'ailleurs. Et le BESC aura une version commerciale à base de transistors qui sera faite par Facit. Facit, donc toujours au Facit, les Suédois qui faisaient donc des calculatrices, hein, qui se sont rués dessus. Et puis après, il y a eu des successeurs spirituels. Il y a eu le SMIL, il y a eu SARA, il y a eu la machine à calculer de Saab aussi. Saab, c'est Saab AB, c'est un constructeur d'avions suédois. Saab, c'est S-A-A-B, c'est Svenska Aeroplan, quelque chose, voilà. Donc, Donc, ils ont utilisé le BESC pour un de leurs modèles, hein, d'ailleurs, le modèle d'avion, hein, le Saab 32 Lansen. Donc, ils ont été tellement intéressés, d'ailleurs, qu'ils ont débauché des gens du projet BESC pour créer SARA, qui sera leur machine à calculer à eux, donc la machine à calculer de Saab. C'est un petit peu pareil pour Facit d'ailleurs, hein, qui ont débauché des gens pour créer leur propre machine. Une dernière anecdote sur le BESC. En 1960, il a été utilisé pour créer ce qui est peut-être une des premières animations en images de synthèse. Donc c'est une route qui défile en vue subjective. C'est une route en fil de fer, hein, mais ça se veut réaliste. Et ça a été diffusé à la télé suédoise en 1961 et c'est encore sur YouTube. Donc le lien est dans les notes de l'émission si vous voulez aller voir. Cette animation faite donc par le BESC en 1960. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un rendu qui est meilleur que celui du jeu vidéo Night Driver, mais c'est le même principe. Donc Night Driver, c'est un jeu d'arcade qui est sorti 15 ans plus tard, hein, par rapport à l'animation que je décris là. Mais bon, c'est un jeu d'arcade de conduite où tu conduis de nuit, donc, hein, évidemment, donc t'as un volant et puis en fait t'as la route qui défile et tu vois finalement que les bords de la route, en fait, tout simplement, qui défilent à haute vitesse. Et c'est un petit peu comme ça, quoi.
C'est bien pratique de conduire de nuit, il y a moins de choses à rendre, à modéliser pour rendre le truc
crédible. C'est très pratique, tu vois rien, c'est super pratique.
C'est ça, vous êtes habitué si vous conduisez de nuit. Juste avant qu'on abandonne, façon de parler, hein, la Suède, c'est rigolo à chaque fois, je me pose peut-être la question à tort, de qu'est-ce qui fait qu'un pays comme ça émerge. Est-ce que finalement, le fait que tu nous parles de la Suède fait qu'ils sont particulièrement remarquables à l'époque, ou est-ce que juste c'est intéressant de s'intéresser justement à ce qui se passe en Suède? Est-ce qu'ils étaient un peu, pour le coup, précurseurs au niveau des développements à l'époque? Et est-ce que ça a été motivé par quelque chose? J'aime bien essayer de positionner un peu leur situation par rapport aux autres de manière générale.
Bah, la Suède, c'est un pays qui avait des bons ingénieurs, qui avait une industrie aussi, industrie électrique. Donc, ils avaient des cerveaux, ils avaient du matos et ils étaient, comment dire... Bah, en fait, c'est aussi l'effort de guerre qui a motivé les ordinateurs. Hein. On voit bien, ils ont un secteur de l'armée. Bah, ils ont Saab, donc ils fabriquent des avions. Ils avaient un programme, ils ont eu un programme donc nucléaire. En fait, c'est les besoins de calcul souvent, hein, et les besoins de calcul ont été stimulés par la guerre en Suède comme elles l'ont été dans d'autres pays. Bon, on verra que c'est pas comme ça que ça s'est passé en France, mais bon, effectivement, en Suède, c'est aussi ce qui a permis effectivement le développement de l'informatique comme un peu partout ailleurs, hein, comme aux États-Unis aussi, comme en Angleterre, etc.
Je retiens un mélange de hasard, peut-être, de circonstances économiques, d'industrie, de personnes et de contexte géopolitique. Ok, c'est cool de savoir qu'il y a cette situation-là en Suède. Merci pour le panorama, Guillaume, le panorama historique. Et puis, tu voulais enchaîner et t'éloigner un petit peu de la Suède pour t'envoler vers l'Est et nous emmener avec toi pour aller regarder ce qui s'est passé un petit peu plus proche de la Russie.
Oui, parce que le troisième pays d'Europe continentale à avoir eu son ordinateur, c'est l'Ukraine. Donc, et on le doit au père de l'informatique soviétique, hein, qui est Sergueï Alexeïevitch Lebedev. Donc, lui, il est russe, mais l'Ukraine, évidemment, à l'époque, c'était l'URSS. Donc, en fait, c'est la maison, hein, c'est pareil. Donc, Lebedev, c'est un universitaire spécialisé dans l'électricité de puissance. Donc, il a pas mal de calculs à résoudre, tu vois, encore le besoin de calcul, quoi. Ouais. Et bon, il est un peu comme tout le monde, hein, dans les années 30 et 40, il en a marre de faire les calculs à la main ou avec des bouts de ficelle, et donc il cherche par tous les moyens à se faciliter le travail. Donc il essaye les calculateurs mécaniques, il essaye les calculateurs analogiques aussi, comme celui de Vannevar Bush, dont on a parlé dans le premier épisode, je crois. Dans les années 40, en Russie, c'est un petit peu vers là qu'on s'oriente, quoi, vers l'analogique. L'analogique est très à la mode. Et bon, Lebedev, donc en 46, il devient directeur de l'Académie des sciences ukrainiennes, et petit à petit, il va s'intéresser au calcul digital. Donc en 47, lui, il est convaincu que le combo gagnant, c'est une machine de calcul binaire, à virgule flottante, avec trois registres d'adresse, tout en électronique, voilà. Et c'est pas si évident, hein. En fait, il y a beaucoup de ses collègues d'ailleurs qui trouvent qu'il a des goûts de luxe, hein, que 17 bits en virgule flottante, ça suffirait. Ça suffirait à tout le monde, parce que c'est comme 640 kilooctets de RAM, hein, ça doit suffire à tout le monde. Et en fait... C'est aussi ce truc de la virgule flottante, quoi. La virgule flottante, c'est super pratique, hein. On rappelle que la virgule flottante, ça permet un nombre variable de chiffres après la virgule. Donc ça permet en fait d'ajuster la précision en fonction des besoins. Et du coup, évidemment, il faut garder la trace de cette virgule qui se balade un petit peu, donc sous forme d'exposant, hein. Donc c'est un paramètre de plus, alors qu'en virgule fixe, la virgule elle bouge pas, donc t'as pas besoin de ça. Forcément, c'est plus économique de travailler en virgule fixe. Bon, finalement, Lebedev va céder, hein, sur la précision fixe et sur les 17 bits, et donc il va mettre en place un labo. Alors, c'est un labo secret, évidemment, puisqu'on est en URSS, ou pas. Bon, donc le labo, il est secret. Ça va s'appeler le labo number one. Ouais, le labo number one, c'est un peu générique, je sais, pour un labo russe, mais bon. C'est là qu'il va travailler, hein, sur le design de ce qu'il va appeler le MESM. M-E-S-M. Et MESM, ça veut dire un truc en russe, hein, ça veut dire... Oula, attention. Ça veut dire Malaya Elektronochetnaya Machina.
Ah, tu t'y es risqué, ok.
Voilà, qui se traduit par petite machine à calculer électronique, a priori. Ouais. En fait, le plus gros souci de Lebedev, c'est de trouver des gens qualifiés. Parce qu'il n'y en a pas, tu vois. C'est important, hein, évidemment, d'avoir des gens qui sont bien qualifiés, qui ont une sensibilité à ça, etc. Et en Ukraine, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc personne ne connaît le sujet. Bon, tu sais qu'on est derrière le rideau de fer depuis 47, quoi. L'ordinateur n'existe pas, donc il mettra 2 ans pour recruter une vingtaine de personnes. Et il va se mettre, il va se mettre à rechercher en particulier à fabriquer donc des petits composants qui s'appellent des flip-flops, parce qu'ils vont utiliser le flip-flop comme brique fondamentale pour le MESP.
Non, pardon, excuse-moi, les flic-flacs, j'avais en tête, pardon.
Alors, les flip-flops, je sais pas le flip-flop. Le flip-flop, c'est pas les tongs, hein, parce qu'il y a des tongs qui s'appellent flip-flop, je crois.
Pardon.
C'est non, pas des tongs, non, non, c'est des bascules. Les okay. bascules, flip-flop, c'est, ça bascule, flip et flop. Mm-hmm. C'est une bascule. Une bascule, c'est quoi? Bah, c'est une mémoire de 1 bit, quoi, globalement. Un okay. relais, par exemple, ça représente 1 bit, hein, 0 ou 1. Donc, selon s'il est ouvert ou fermé, on peut commander son état avec un signal. C'est, en fait, flip-flop, ça reste stable. Tant que le circuit est alimenté, ça reste stable. Ça peut être 0, ça peut être 1, mais ça, voilà, en gros, en guise de relais, on peut utiliser un équivalent électronique, hein, comme des tubes à vide ou des transistors, si t'en as. Donc la première bascule, c'est un truc qui a été inventé en 1918, avec des tubes à vide. Hein, et c'est d'ailleurs ce même design qui sera utilisé en 1943, dans le fameux Colossus. On utilisera des flip-flops avec des lampes, avec des tubes à vide. Donc Lebedev et son nouveau meilleur pote, qui s'appelle Dashevsky, ils vont travailler sur les briques de base, hein, ces briques-là, dans des conditions qu'on peut qualifier de difficiles. Vraiment. Hein. Alors, il faut savoir qu'on est en Ukraine après-guerre, juste après-guerre. Et l'Ukraine, après la guerre, c'est vraiment pas la joie. Le pays a été dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler y a décrété une zone d'annihilation en 1943, et les Soviétiques ont fait terre brûlée. Bon, conclusion, 85% de Kiev est détruit. Bon, il n'y a plus que des ruines de bâtiments, quoi. Enfin, il y a beaucoup plus de ruines que de bâtiments. Et pour couronner le tout, en 1946, il y a la famine qui s'abat sur le pays. Et même d'ailleurs,
sur... Historiquement chié sur tous les aspects, dis donc, hein. C'est fou.
Ouais, ça, alors là, carrément. D'ailleurs, la famine, c'est même carrément sur toute l'Union soviétique, donc c'est une période atroce. Mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, ce contexte explique pourquoi les BDF et son équipe se sont retrouvés à construire un ordinateur dans un monastère. Alors, parce que bon, l'Ukraine est en ruine, et eux, ils leur font local. Local, bah, c'est gros quand même, hein, parce qu'il faut dedans foutre une machine qui allait prendre facilement 50 mètres carrés au sol, sans compter les câblages, les instruments, les outils et les gens, hein, qu'il faut autour. Donc, bah, ils vont déménager leur labo en 49 dans un bâtiment ancien, spacieux et totalement vide, qui est un ancien monastère, tout simplement, complètement désaffecté, dans lequel il y a des poêles à bois pour se chauffer, parce qu'il n'y a rien, en fait. Hein. Et d'ailleurs, le bois, il faut qu'ils le coupent et qu'ils le débitent à l'âche eux-mêmes. C'était pas évident, la vie d'ingénieur informatique à l'époque, hein.
Oui. Ça demandait un peu plus de biceps qu'aujourd'hui, quoi.
Attends, à l'époque, je veux dire, c'était pas les... Bon. Bref, il était à 15 km de Kiev, par une route boueuse, d'ailleurs, où les camions s'enlisaient volontiers. Donc, vous savez, hein, ces histoires de dégel au printemps, tout ça, ben, ça n'a pas d'hier en Ukraine. Et voilà, donc, il fallait bien ça, quand même, hein, parce que même au monastère, en fait, la machine ne rentrait pas. Et il a fallu faire tomber les murs, virer le plancher, et puis ensuite, ils ont commencé le montage du monstre, qui avait quand même 6000 tubes à vide. Et alors, un autre souci en soi, étant donné la faible fiabilité des lampes russes, c'est qu'il fallait tester une trentaine d'heures à chaque lampe pour être sûr que voilà, elle allait faire ses preuves, quoi, pour lui faire faire ses preuves.
Okay. Et,
autre souci, il y avait les risques d'électrocution, hein, qui étaient nombreux. Il a fallu mettre des coffrages sur les composants, parce que bon, voilà, selon où tu touches, ça se passe pas bien. Composants qui chauffaient énormément, la machine consommait 25 kW, puisqu'il y avait 6000 lampes, ben voilà, 25 kW. Et 25 kW, ben en plein hiver, même en plein hiver ukrainien, hein, l'intérieur, ça monte à 30 degrés. Et donc en été, c'est juste insupportable. Donc les lampes mettaient d'ailleurs du temps à se chauffer, parce qu'il faut qu'elles mettent du temps à se chauffer pour fonctionner de manière optimale, quoi. Si bien qu'en fait, ils faisaient préchauffer la machine entière 24 heures à l'avance.
Mmh, ah oui, sympa, ok.
Un mode préchauffage, et alors du coup, bon, 24 heures à l'avance, qu'est-ce que tu fais? 24 heures à l'avance, un truc qui consomme 25 kW, tu laisses un mec là-bas toute la nuit pour vérifier que ça prenne pas feu.
Putain, dis donc,
parce qu'au cas où ça prend feu, bon, il faut... Ouais. Voilà. C'était des conditions... c'est plus pareil, quoi. Et bon, finalement, fin 1950, la machine a enfin répondu correctement à la question 2 plus 2 égale, elle a dit 4. Enfin, elle disait 4 presque tout le temps, disons. Donc c'était quand même pas mal. Alors, le MES me fut présenté à l'Académie des sciences ukrainiennes en 1951, puis bon, Lebedev était déjà en train de travailler évidemment sur des améliorations, hein, qui déboucheront d'ailleurs sur le MES, mais qui sera effectivement utilisé, hein, donc le vrai MES, en fait, puisque là c'était un peu le proto. Donc, le MES qui sera utilisé en pratique, qui va aligner quand même une vitesse vertigineuse de 50 opérations par seconde sur 17 bits.
C'est plus que nos 7 opérations par seconde de tout à l'heure.
Exactement. Donc, c'était un ordinateur plutôt moderne, hein, entre guillemets, hein, avec un programme stocké en mémoire. Donc, il y avait 63 commandes et 31 valeurs numériques. En production, on lui adjoindra une mémoire en tambour magnétique. Donc, un tambour, le truc qui tourne, là, on en avait parlé, ça aussi. Et ou une bande magnétique capable, plus tard, d'ailleurs, de stocker entre 5 et 250 000 mots, donc à terme. Mais bon, ça sera plus tard. Donc, le MESM a un énorme succès et on vient l'utiliser de toute l'URSS. parce qu'il faut dire que jusqu'en 53, c'est le seul ordinateur de la zone. Donc même si c'est pas le meilleur, c'est le seul. Donc bon. Et on s'en sert pour de la balistique des fusées, pour de l'électricité de puissance aussi, pour vérifier la stabilité de la ligne électrique Moscou. Alors Moscou Kubichev. Et il y a même d'ailleurs Alexei Lyapunov, donc très fameux mathématicien, qui sera un grand fan du MES, mais qui l'utilisera beaucoup et qui en sera un promoteur. Donc si les scientifiques ont très vite compris d'ailleurs l'intérêt de l'appareil, c'est pas forcément le cas pour l'administration. L'administration qui n'a pas manifesté un enthousiasme débordant à la vue de ce machin. Donc l'Académie des sciences ukrainiennes a vaguement supporté le projet, mais bon, oui, sans plus. Tout le monde n'a pas vraiment compris tout de suite le potentiel des ordinateurs là-bas. Hein. Bon après, pour connaître que dans la zone, il y avait d'autres soucis, tu vois, clairement, on va dire. C'est bon.
C'est peut-être pas la priorité du moment, effectivement, il y a peut-être d'autres chats à fouetter.
C'est ça. Mais bon, Lebedev est reparti à Moscou, du coup, hein, où il va trouver un vrai soutien, quand même, hein, et dès 1950, il va... En fait, il va tout recommencer de zéro, finalement, pour créer une deuxième machine qui sera la plus puissante, qui s'appelle le BESM. Alors, le BESM, qui veut dire Bolshaya Elektrono-Chetnaya Machina, c'est-à-dire machine à calculer à haute vitesse.
Je te félicite d'avoir la volonté de traduire les acronymes.
Toujours,
enfin,
toujours.
De les citer, en tout cas.
Je traduirai tous les acronymes, même ceux en chinois.
Oh. Écoute.
Même ceux en idéogramme. Mais bon, du coup, il n'était pas seul, le truc. C'est qu'à Moscou, il avait de la concurrence, en fait. Le BESM, ça devrait... Alors, selon toute vraisemblance, hein, vu comment ça marchait là-bas à l'époque, le BESM aurait dû être un projet d'État planifié. Or, il y avait un projet concurrent qui s'appelait Strela. Et c'est là que débute une autre histoire d'intrigue politique. Hein. Il faut bien se rendre compte qu'on est sous Staline à l'époque. Hein. Et Staline, le Joseph, il est vraiment pas technophile. Hein. Il aime pas du tout les ordinateurs. Hein. Il considère que c'est un produit maléfique du capitalisme. Il considère que la cybernétique, qui est toute jeune à l'époque, en 1950, elle est considérée comme du charlatanisme, que c'est une tentative de saper les droits des travailleurs. Donc, tu vois, et c'est marrant d'ailleurs, hein, parce que tu vois, c'est pas dire que c'est cette problématique, hein, que l'informatique sape les droits des travailleurs, veut remplacer les travailleurs, que c'est un
produit. Ça fait drôlement écho à des sujets qu'on aborde aujourd'hui en 2023, au moment où on enregistre cet épisode, effectivement.
Ça, c'est très amusant de voir ça, effectivement. Et donc, à l'époque, c'était l'idéologie. Hein, l'idéologie sous Staline, c'était ça. C'était une idéologie qui était extrêmement défiante vis-à-vis de la technologie et des ordinateurs. Mais bon, pourtant, à Moscou, Bachir Ramayev entend parler de l'ENIAC, donc le projet américain. Hein. Et donc, il va lancer un projet d'ordinateur avec Yuri Basilevski, qui va s'appeler Strela. Alors, Strela, ça veut dire la flèche en russe. Et qui recueillera pas mal de lauriers, hein, finalement, dont le prix Staline, d'ailleurs, en 1954. Et d'ailleurs, Lebedev l'a eu en 1950, hein, donc pas de jaloux. Et le BESM de Lebedev, lui, bon, évidemment, il était un peu similaire au MESM, hein, c'est son deuxième ordinateur. Mais il avait des registres plus gros, de 39 bits, en virgule flottante, finalement, et il était content, hein, le Sergueï. Il a une mémoire vive, et c'est là que ça a été très dur, en fait, pour Sergueï, parce que, comme partout à l'époque, hein, la question de la mémoire, c'est le problème central, finalement. Parce que lui, il voulait utiliser des tubes cathodiques pour stocker les infos, hein, à raison de 1024 bits par écran, donc on avait déjà, je ne vais pas revenir complètement dessus, mais on avait déjà parlé, hein, de cette idée, on stocke les bits comme une image sur un écran cathodique, et donc il y a une plaque devant l'écran qui va les lire en détectant les petites variations de champ électrique qu'occasionne cette image, on en avait parlé donc dans l'épisode précédent. Et bon, donc...
L'épisode d'histoire précédent, effectivement. Vous pouvez remonter sur techcafé.fr et puis ils seront également dans les liens, dans les notes de l'épisode.
Exactement, dans le deuxième épisode de ce qui est désormais une trilogie, mais qui deviendra peut-être une tétralogie plus tard, bref. Et bon, donc, il faut des tubes, hein, voilà, et donc, si tu veux de la mémoire aussi, tu peux faire la mémoire avec des tubes cathodiques, et donc, il faut des tubes cathodiques, il faut les trouver, ces tubes cathodiques. Et donc, il voulait 1024 mots de mémoire, et comme il faut 39 bits, ça fait 39 tubes cathodiques à trouver. Et en 1952, en URSS, ça court pas les rues, les tubes cathodiques. Et donc, devinez quoi ? C'est le projet Strela qui a sécurisé tout le stock disponible. Donc, ils se sont débrouillés. Se sont débrouillés pour tout choper. Donc, les BDF, il est bien deg, les BDF. Et il doit se rabattre sur des lignes à délai de mercure. Donc, une autre technologie qu'on a aussi vue dans l'épisode précédent, d'ailleurs, hein, qui est utilisée en Angleterre aussi, et qui demande de tout revoir de fond en clos, parce qu'évidemment, ça marche pas du tout pareil. Et du coup, en 1953, le BESM, il est finalement moins rapide que le Strela. Voilà. Donc 1000 opérations par seconde contre le double pour le Strela. Mais le Strela est prévu pour être produit en masse Il devient le premier ordinateur commercial de Russie. Et ça y est. Et alors, bon, pourtant, il n'est pas vraiment le plus puissant. Parce que le BESM, en réalité, si, quand il reçoit enfin ses tubes cathodiques un peu plus tard, eh ben, il va lui rouler dessus. Le pauvre Strela, il va le dégommer, puisque le BESM a affiché 8000 opérations par seconde en virgule flottante. Et ouais.
Allez, prends ça dans ta face.
Dans ta face, Strela. Et bon, ironiquement, hein, tout ça était déjà obsolète en arrivant, puisqu'en fait, on était au début des mémoires à tore magnétique. Encore une technologie dont on a parlé dans l'épisode 2, n'est-ce pas ? Le BESM, d'ailleurs, les adoptera dès que possible. Hein, donc, le BESM va adopter, une fois qu'il aura adopté les tores magnétiques, il sera la machine chouchou des scientifiques. Les scientifiques vont s'éclater comme des petits fous dessus. Et puis, il faut les comprendre. Hein, je veux dire, les Mega Drive n'étaient pas encore inventés à cette époque-là, donc
ouais.
C'était leur machine à eux. Et donc, il y a un Strela qui a été mis en service en 1956 et qui a fait les calculs pour le vol de Yuri Gagarin, premier vol spatial habité en 1961. Son concepteur, d'ailleurs, devient du coup le héros du travail socialiste. Donc, en 1953, c'est d'ailleurs aussi l'arrivée de Nikita Khrouchtchev, Khrouchtchev, qui va succéder à Staline. Et ça, c'est très important parce que Khrouchtchev, il est beaucoup moins fermé idéologiquement que Staline aux ordinateurs. Et donc, sa présidence va ouvrir la voie à une véritable industrie informatique, et pas juste à des projets par-ci par-là dotés à l'arrache, parce que, bon, voilà, on veut pas non plus complètement perdre le truc, tu vois, perdre la main vis-à-vis de l'Occident, mais on n'y croit pas trop, et puis surtout, on n'aime pas ça, tu vois. Là, il va y avoir une bascule idéologique avec Khrouchtchev.
On peut continuer, qu'est-ce qui s'est passé alors après ?
Alors, le BESM, en fait, il va asseoir les BDF comme une référence de l'informatique soviétique, hein. Donc il va pondre ensuite d'autres ordinateurs, le M20, le BESM-2, qui seront produits en masse à partir de 59, puis il y aura toute une lignée jusqu'au BESM-6 en 65, qui était un véritable super ordinateur de l'époque, hein, qui utilisait des transistors, il utilisait 60 000 transistors, 180 000 diodes, une architecture pipelinée et super scalaire, qui exécutait jusqu'à 8 instructions par seconde. Donc en gros, c'était l'équivalent d'un Pentium 2. Et alors, Pentium 2 au niveau pipeliné, super scalaire, hein. Donc c'était très sophistiqué en réalité, hein, 65. Hein. Et donc à partir de 65, on a aussi la série des mini-ordinateurs Mir. Donc les Mir 1, 2, 3, hein, qui sont conçus à Kiev par Viktor Glushkov et qui nettoient pas du tout la vaisselle, hein, ces Mir-là. Ces Mir sont intéressants parce qu'en fait, ils font partie de la famille émergente dans les années 60 des mini. Donc les mini-ordinateurs. Alors voyez plutôt le Mir 1, par exemple. Il a une RAM confortable de 4096 mots de 12 bits, à mémoire TOR, hein, donc avec des petits TOR comme ça, les petits anneaux dont on a parlé, dont les 300 opérations par seconde, un lecteur de cartes perforées, donc il a tout le confort moderne, des performances qui sont très correctes pour l'époque, et c'est une machine qui pèse que 400 kilos, et qui ne consomme que 1500 watts. Je veux dire, c'est vraiment minuscule.
J'aime les que 400 kilos, que 1500 watts, rendez-vous compte.
Mais oui, c'est vraiment mini. Il faut voir, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment, donc avant, on avait les énormes ordinateurs qui faisaient 10 fois ça, quoi, globalement, à tout point de vue. Et là, maintenant, on arrive à une forme de miniaturisation qui était ce qu'elle était dans les années 60, mais c'est l'avènement des mini. Et d'ailleurs, ça éclaire aussi pourquoi on appelait autrefois, dans les années 80, des ordinateurs de 10 kilos des micros. Des micro-ordinateurs, mais ça pesait quand même 10 kilos quand même. Hein, quand ils sont sortis, le PET, par exemple, il n'était pas léger. Mais bon. Donc, c'est autre chose. Glushkov, donc, c'est qui le papa des Mir, il a aussi bossé sur un petit projet rigolo qui s'appelait OGAS, et qui veut dire encore un truc en russe et qui se traduit par Système National Automatisé de Calcul et de Traitement de l'Information, et c'est ni plus ni moins qu'un Internet soviétique, tout simplement.
Un réseau, alors.
C'était un réseau, effectivement. Sa vision, c'était celle d'un réseau en trois niveaux. Donc, il y avait un centre à Moscou. Oui, quand même, on est soviétique, faut pas déconner.
Déjà, ça pose des bases. Okay.
Bah, c'est Internet, oui. Ah, ça, si, c'est un centre à Moscou, bon, c'est tout. Et après, il y a 200 centres secondaires dans les villes importantes. Il y a 20 000 terminaux locaux, là où ça vaut le coup, hein, économiquement, voilà, dans les villes qui valent le coup, quoi. Donc, Victor, il a eu l'idée en 1962, mais finalement, ça n'a jamais été financé. Parce que ça bousculait tout le monde, et la bureaucratie a fini par asphyxier au gaz. Oui, bon, ça va.
Bref. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu les plus-values, quand même, de ce réseau, justement, sur la partie administrative, sur la partie bureaucratique, quoi.
Mais non, parce que les bureaucrates, ils n'avaient pas envie de se faire remplacer. En partie,
ah d'accord,
tu sais.
Ok, encore une fois, cette crainte de...
Okay, complètement, ça a bousculé beaucoup trop de choses, on va dire. Donc c'est pas le seul projet de réseau concurrent à Internet russe, hein, d'ailleurs, mais ils ont tous échoué. Alors, il y aura en réalité plein de modèles d'ordinateurs soviétiques aussi, d'ailleurs, hein, qui se vendront bien dans tous les pays du pacte de Varsovie, hein, Rien que sous Khrouchtchev, en plus d'Estrela, il y a eu des Setoun, il y a eu des Mir, il y a eu les lignes Minsk. Il y a eu 355 BESM-6 qui seront fabriqués quand même. Donc c'est des ordinateurs qui, dans l'ensemble, ne seront pas à l'absolu point des performances mondiales, tu vois. Mais ça se défendait bien, c'était compétitif et ça permettait au bloc de l'Est d'avoir des ordinateurs parce que, bah, et devinez quoi, hein, il y avait un embargo sur les composants contre la Russie, évidemment. Mmh. Et ça aussi, c'est un truc qui rappelle des choses, n'est-ce pas ?
Donc, tu m'étonnes.
Hein ?
Non, je disais, tu m'étonnes. C'est vrai que les parallèles qu'on peut faire... On a l'impression, tu sais, on parle souvent de polarisation, comme ça, des grands blocs géographiques aujourd'hui, dans les années 2020, de la tech, etc. Mais bah, forcément, les choses ne sont pas si nouvelles que ça, par certains aspects, naturellement parlant.
Évidemment. Concordance des temps, tout ça, tout ça. Bon, donc, il y a eu des embargos sur un peu tout, en fait. Hein. Il y avait l'accord COCOM, c'est Coordinating Committee for Multilateral Control Export Controls, donc le COCOM de 1950 qui interdit entre autres aux entreprises occidentales de vendre des ordinateurs au bloc communiste parce qu'ils sont considérés comme des atouts stratégiques. Voilà. Et ça, c'était à moins d'avoir une licence spéciale. Donc en fait, c'était un peu comme aujourd'hui, quoi, globalement, avec la Chine. La relative profusion de machines et de constructeurs soviétiques, finalement, c'est un peu contre-productif. Ça s'est révélé sur le temps un peu contre-productif parce que tout le monde produit un petit peu ce qu'il veut, du coup ça fait des périphériques incompatibles, des écosystèmes incompatibles, des langages aussi qui sont, voilà, c'est des pièces. Donc tout ça est un peu bordélique, et du coup, en 66, il y a eu quelque chose, on en avait aussi parlé, mais voilà, c'est un truc vraiment important, il y a eu la sortie de l'IBM 360. Et l'IBM 360, c'est un écosystème interopérable, etc. Et donc les économistes russes, ils préconisent en fait de créer une ligne de machines compatibles avec du matos interopérable, qui sera compatible avec l'IBM 360. Mais de manière assez étonnante, mais bon, c'est pragmatique, hein, en fait, ils vont décider de créer des clones du matériel IBM. Donc, dès 68, ils commencent à faire du reverse engineering sur les 360, sur les IBM 360, et ils vont produire à partir de 72 des machines qu'ils appelleront, qu'on va appeler les Riyad. Donc, Riyad avec, Riyad comme en Arabie Saoudite, hein, Riyad avec un Y, mais en fait, là, le nom complet, c'est ESEVM, donc c'est un acronyme qu'on ne va pas expliciter parce que je suis fatigué.
Dommage. T'avais promis pourtant.
Ouais, j'avais promis, je sais, là, c'est terrible. Donc, les Riyad, en fait, c'est des mainframes compatibles IBM qui seront produites dans le bloc de l'Est, avec des brevets locaux. Hein, donc, ils ont refait le truc de zéro. Donc, c'est compatible, mais c'est refait de zéro. À tel point qu'IBM...
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de la copie ou pas ? Parce que j'ai quand même l'impression de ce que tu sous-entends, c'est quand même bassement de la copie qu'on rebrande, quoi.
Alors, oui et non, en fait. C'est compliqué parce que c'est compatible, mais ils ont tout refait de zéro. Ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas copié le matériel IBM. Ils ont fait un matériel à eux, qui n'est pas une copie de ce que fait IBM, mais qui est compatible. C'est-à-dire qu'il répond au même contrôle, aux mêmes instructions, au même code, etc. Tu vois ? Donc, il y a cette idée-là. Donc, d'ailleurs, IBM a même commencé à se renseigner et à démarcher les Russes. Mais bon, en 79, il y a l'invasion de l'Afghanistan, et bon, les tensions politiques montent d'un petit cran, quoi, et du coup, c'est plus possible. Donc, on voit qu'il y a quand même une énorme rupture avec la vision stalinienne des ordinateurs, qui est complètement consommée dans les années 70, où les Russes, en fait, veulent faire le forcing sur la production des machines. C'est-à-dire qu'à un moment, les Russes veulent devenir un gros producteur de machines, et ils vont se baser sur les Riyad. Hein, donc, il y aura des Riyad qui, donc, à cette époque-là, sont à circuit intégré, hein, ça y est, et qui vont essayer de vendre au maximum tous les pays du Comecon. Alors, le Comecon, c'est pas le Comicon, hein, c'est pas le Comicon. Le Comecon, c'est le Council for Mutual Economic Assistance, donc c'est une sorte de Commonwealth, mais pour les pays communistes. Je pense qu'on peut le résumer comme ça, très très grossièrement. Donc c'est un regroupement de pays qui comprenait l'URSS, évidemment, hein, mais aussi tous les pays derrière le rideau de fer, quoi. Le rideau de fer, hein, comme on disait, ah là là. Donc il y a évidemment Cuba aussi, et le Vietnam d'ailleurs, hein, en plus des pays d'Europe de l'Est. Donc Angela Merkel, vous connaissez bien, hein, salut, on lui fait un coucou. Coucou Angela. Elle a soutenu une thèse en 86, elle est physicienne, je crois, enfin, en tout cas, elle est universitaire, donc elle a soutenu sa thèse en 86 en Europe de l'Est, en Allemagne de l'Est, hein, et elle a utilisé un ordinateur de type Riyad, d'ailleurs, pour sa thèse. Et des ordinateurs Riyad, il s'en vendra 15 000 au total, hein, c'est pas pour... c'est des machines qui, on le rappelle, sont très grosses, hein, c'est 15 000, ça a l'air dérisoire, évidemment, quand on le compare aujourd'hui, mais il faut se rappeler que c'est des machines professionnelles absolument énormes qui prennent une salle entière. Hein, donc 15 000, oui, c'est vraiment pas mal. Oui. Donc le changement de cap politique en faveur des clones d'IBM, ben, c'est assez fort. Donc économiquement, ça, oui, ça, c'est assez sensé, mais le problème, c'est que ça ne favorise pas tellement les constructeurs locaux. Et Lebedev, du coup, qui va quitter son poste en 73, bon, enfin, il est malade, de toute façon, il mourra l'année suivante. Il aura une belle carrière, hein, Lebedev. Hein. Il a commencé avec une machine qui tournait à 8-10 opérations par seconde. Et en 67, il va finir avec le super ordinateur le plus rapide du pays, qui sera 100 000 fois plus rapide que son premier. Donc c'est assez marrant d'imaginer que ce mec, dans sa vie, hein, il aura fait machine sur machine sur machine, et il aura un gap de 100 000 entre la puissance de sa première machine et la puissance de sa dernière.
Eh ben, c'est un sacré exploit, effectivement. Un gap de 100 000, c'est pas donné à tout le monde.
Ouais, c'était, mais voilà, bon, c'est cette époque où ça avançait assez vite quand même. Donc son héritage lui a survécu un bout de temps, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'elle lui survit toujours avec la ligne Elbrus. Il y a une dizaine d'itérations de superordinateurs multiprocesseurs RISC qui doivent toujours être en activité, d'ailleurs. Les Elbrus 16S affichaient 1,5 teraflop en 2019. Donc il y a probablement des Elbrus hein, qui tournent toujours et qui se vendent toujours, d'ailleurs, en Russie. Et à partir des années 80, le problème, c'est que l'informatique russe commence à stagner, quoi. L'URSS compte plus de programmeurs, en fait, que d'ordinateurs, parce qu'elle forme pas mal, aussi.
Une sorte de crise, en fait, quelque part.
Ouais, c'est assez paradoxal. L'URSS, elle parie vraiment sur l'informatique et elle forme énormément de gens. Elle forme beaucoup de cerveaux et des cerveaux très brillants, l'URSS. Hein. Mais en fait, elle a un souci, c'est qu'elle ne comprend pas ou très tard le virage de la micro-informatique qui s'amorce dans les années 80, au tout début 80. La faute à l'embargo du Comecom aussi, qui est finalement levé sur les micro-ordinateurs en 84. Après, tout ça va changer avec Gorbatchev, qui veut une sorte de plan informatique dans les écoles, ben, un petit peu comme on a eu nous, hein, tout simplement. Hein, je ne sais pas si tu te souviens. Si vous êtes aussi vieux que moi, ben, vous avez peut-être connu un MO5 dans votre collège, ou un TO7, ou un truc comme ça. Et ben voilà, hein, c'était le plan informatique pour tous, je crois, ou un truc comme ça, qui a été lancé en France hein, dans les années 80-90. Et d'ailleurs, les micros aussi sont arrivés en URSS et en 84 qu'a été inventé Tetris par Alexei Pajitnov.
Voilà.
Meilleur jeu de l'histoire, n'est-ce pas? Donc, grande année. Et bon, voilà, enfin, tout ça, bon, après, vous connaissez l'histoire. En 91, l'URSS est dissoute. C'est la Perestroïka et compagnie. Et donc, la technologie peut enfin aller et venir. Hein, c'est ça que ça veut dire aussi, la Perestroïka, c'est que, bon, ben voilà, les Russes peuvent avoir accès aux technologies de l'Est. De l'Ouest, et etc. Donc, ben, finalement, ça signe un peu la mort de l'industrie informatique indigène. Et donc, l'un dans l'autre, ben, l'URSS a été une grande nation de l'informatique, hein, puisqu'elle a produit beaucoup de machines de son côté, qui ont été un temps compétitives. Et bon, alors évidemment, c'est l'URSS, se pose toujours la question, de notre point de vue, hein, de l'innovation réelle du bloc de l'Est, c'est-à-dire à quel point ils ont inventé des trucs, à quel point ils ont copié des trucs, à quel point le KGB leur a montré des trucs. Bon, voilà. Tout ça, évidemment, j'en sais rien, on va pas rentrer dans ces trucs-là. C'est vrai qu'il y a une culture du secret en URSS qui a pas aidé, qui aide pas de ce côté-là, quoi, on va dire. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le MESM, le premier ordinateur de Lebedev, a démarré en 1951, et que d'ailleurs, bah, pour le coup, il a été dévoilé comme 1955. Tu vois, il est resté secret jusque-là. Donc il y a beaucoup, voilà, on peut se poser des questions, effectivement, à cause de ça. Il y a beaucoup d'opacité, bon... Mais voilà, ça a été quand même une grande nation de l'informatique, et tout ça malgré pas mal de handicap, quoi, parce que je veux dire,
ouais.
il y a eu les lourdeurs bureaucratiques, il y a eu des barrières idéologiques énormément, il y a eu les luttes politiques, il y a eu les enjeux géostratégiques, ça fait vraiment un ensemble qui a eu, enfin c'est un gros ensemble de handicap, tu vois, et ça fait beaucoup de trucs en hic en plus, quand même, je trouve.
C'est
bon, et puis toujours, il y a forcément un gros paquet de barrières qui font ramer le secteur, tout ça, ça fait un gros paquet de barrières, qui ont fait finalement que la Russie n'a pas réussi à être à la pointe, encore pour plein de raisons, et aujourd'hui, bon, elle n'est plus du tout compétitive, d'autant moins que, avec les derniers événements, forcément, hein, la Russie a aussi un petit peu de mal. Mais il y a eu une véritable histoire, et c'est important de revenir dessus.
Excellent. Eh ben, on aura bien voyagé du côté de la Russie pour explorer un petit peu. Et effectivement, moi, j'avais pas du tout en tête le fait que ça avait pu être aussi avancé technologiquement. Bon, je garde en tête quand même ce côté on innove, mais on innove en reprenant les plans des autres. Bon, c'est pas les seuls
pas
à faire ça.
Il n'y a pas que ça. Je pense. Ouais. Alors, si tu veux, c'est une suspicion qu'il y a forcément quand on parle de la technologie à l'Est. Mais en réalité, bon, il y a aussi eu beaucoup d'innovations. Puis d'ailleurs, là, on n'est pas revenu sur toute la période de la micro-informatique, donc des années 80, 90, ouais. Dans le bloc de l'Est. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait une scène, voilà, il y avait beaucoup de développeurs, il y avait énormément de micros. Enfin, ça a continué, hein, quelque part. Hein. Et effectivement, à partir du milieu des années 90, de toute façon, il y a eu des machines comme ici, en fait. Mais, et puis, il y a eu aussi des clones là-bas, d'ailleurs. Bon, ça serait... La micro en Russie, bon, c'est peut-être un truc sur lequel on reviendra un peu plus tard, mais c'est aussi, c'est aussi une histoire en soi.
Excellent. Retour au Guillaume qui fait le montage comme convenu et comme indiqué en intro de cet épisode. Merci évidemment beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous voulez réagir dessus, vous pouvez aller sur techcafé.fr, vous pouvez aller dans la rubrique réaction du serveur Discord qui est accessible sur techcafé.fr/discord. Si évidemment vous trouvez que Tech Café vous sert à quelque chose, vous informe et vous divertit, rendez-vous sur patreon.com/techcafé et puis vous pourrez nous attribuer quelques euros par mois en le plafonnant, en le faisant sans engagement et en profitant en échange du flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. En attendant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de ce dossier où vous entendrez beaucoup plus parler de la France. Ciao à toutes et à tous.